pour ce privilège, Seigneur, d'étudier ta parole. Seigneur, à travers cette leçon, la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, on veut découvrir ton cœur à toi pour les nations. C'est rafraîchissant pour moi, Père, de plonger les regards dans l'Ancien Testament et puis de voir comment les premiers missionnaires du Nouveau Testament ont compris ta parole, ont compris ton cœur dans l'Ancien Testament, alors que tout le Nouveau Testament n'était pas écrit. Et ça me touche, Seigneur, de voir à quel point le salut des nations était là dans ton projet, Seigneur. Je te demande, Père, d'ouvrir nos cœurs à ce fardeau que tu as pour le salut des nations, afin que nous soyons une Église qui prie, une Église qui annonce l'Évangile, Seigneur, et une Église qui envoie des missionnaires. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, juste pour se situer, on est dans le cours « Que les nations se réjouissent » et on est en train de couvrir le chapitre 5 dans le livre de John Piper. Donc, le cours est plus qu'inspiré du livre. Là. C'est vraiment, je vous enseigne le livre, pour ainsi dire, avec quelques applications qui sont peut-être plus contextualisées à notre réalité. Quelqu'un demandait les références pour l'application pour prier, justement. Si vous voulez la chercher, je vais vous donner le nom, puis on va essayer de penser à vous envoyer ça la semaine prochaine avec le lien pour le cours biblique. Donc, ça s'appelle JP Unreached, en anglais. U-N-R-E-A-C-H-E-D, JP Unreached. Et pour ceux qui ne suivraient pas, là, qui ne sauraient pas de quoi on parle, donc c'est une application qui a été développée par l'organisation missionnaire qui a écrit le livre « Pray for the Nation », dont on fait la promotion ici à l'Église. Dans quelques semaines, on va avoir notre livre du mois de mai. Et à la table, vous allez pouvoir vous procurer encore une fois ce livre-là. Et cette application-là, elle est gratuite. Vous pouvez l'installer sur vos appareils mobiles. Vous pouvez activer un rappel quotidien. Et puis, une autre ethnie, un autre groupe ethnique dans le monde va vous être présenté à tous les jours avec des requêtes précises pour ce groupe-là, avec la réalité de l'évolution de l'Évangile dans ce milieu-là. Moi, je trouve ça fantastique. Puis, donc, c'est résumé sur l'application. Vous avez un lien si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations en allant sur leur site web. Vous allez vraiment avoir une présentation là, de la situation démographique, la situation économique de cette peuplade-là. Mais souvent, on parle de 1,5 million, 3 millions, 400 000 personnes. C'est quand même beaucoup de gens qui sont des peuples non atteints pour l'Évangile. Donc, je vous encourage à rentrer ça dans votre habitude. Personnellement, j'arrive à prier dans ma semaine. J'ai des rappels tous les jours. Pour être très transparent avec vous, je prie peut-être 2-3 fois dans la semaine. Souvent, je fais juste comme le passé. J'ai pas trouvé le moment pour le faire à tous les jours puis que ce soit vraiment intégré. Mais je renonce à enlever l'application puis à arrêter de prier. D'accord? Je laisse les rappels, même si des fois c'est comme oh, je prierai pas encore aujourd'hui. Mais au moins, j'arrive à prier quelques fois dans la semaine. Donc, je trouve que c'est un beau rappel pour nous amener à prier pour la mission. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On continue cette section-là où on parle du cœur de Dieu dans toutes les nations. Retrouver la place centrale de Dieu dans le salut pour toutes les nations. Et la semaine dernière, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a regardé des passages de l'Ancien Testament qui nous parlent du cœur de Dieu pour les nations. Des passages beaucoup dans les psaumes. Si vous vous rappelez, à la fin du cours, j'ai tout simplement lu. On les avait regroupés dans trois sections. J'ai lu plein de versets, beaucoup dans les psaumes, certains dans Ésaïe, où on voit cette aspiration-là du peuple de Dieu et donc du cœur de Dieu, parce que c'est Dieu qui a inspiré sa parole. Donc, Dieu est en train de révéler son cœur à lui à travers les psaumes. Et combien est-ce qu'il y a cette vision-là de voir les nations venir louer l'Éternel, de comment Israël va servir à ouvrir les yeux des nations. Et lorsque nous, on regarde l'Ancien Testament, à notre époque, après avoir lu, relu, relu le Nouveau Testament, où là, Jésus explicitement nous envoie vers les nations, on peut avoir l'impression que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas à cœur les nations. Maintenant, c'est faux, c'est une mauvaise lecture de l'Ancien Testament et c'est oublier quelque chose de fondamental qu'on va développer davantage ce matin, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, essentiellement, c'était quoi leur Bible à eux? Mais c'était l'Ancien Testament. Donc, Paul, les évangélistes, les lettres qu'on a aux églises, leurs textes, premièrement, qu'ils avaient pour connaître le cœur et la pensée de Dieu, c'était quoi? Ben, Paul ne se tournait pas dans Matthieu pour être inspiré avec Matthieu 28, 19 à 20. Il ne pouvait pas se tourner là, d'accord? Il ne pouvait pas aller à la fin des Écritures de Matthieu où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il ne l'avait pas. L'Évangile de Matthieu n'était pas écrit. Fait, où est-ce qu'il se tournait pour être inspiré à aller vers les nations? Il se tournait dans l'Ancien Testament. C'est la même chose pour Jean, c'est la même chose pour Pierre. Et lorsque le concile de Jérusalem s'est réuni, par exemple, ou lorsque les apôtres ont entendu dire que Corneille s'était converti, puis là, ils se mettent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme dans l'Ancien Testament où quelqu'un adhère à la foi et donc devient juif? N'est-ce pas un homme non-juif, un païen, va décider de se faire circoncire même en âge avancé parce qu'il est devenu juif pour son salut? Puis là, il se pose des grosses questions. Puis là, il voit que l'œuvre de l'Esprit précède toute possibilité de faire ça. Où est-ce qu'il se tourne pour comprendre, connaître la pensée de Dieu? Ça ne va pas dans Matthieu, ça ne va pas dans Luc, ça ne va pas dans Marc, ça ne va pas dans les lettres de Paul, ça va dans l'Ancien Testament. Et donc, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu avait dans son cœur le salut des nations. Et c'est vraiment encourageant. Pour moi, ça a été énormément encourageant. On peut regarder déjà le psaume 67, versets 2 à 4. « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. » Ça va jusque-là? Prière standard d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant, « afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » Puis ça va être quoi le résultat de ça? Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Donc la prière, c'est quoi? Est-ce que c'est que Dieu vienne bénir Israël pour qu'Israël puisse narguer les nations puis dire « Nous sommes le peuple élu de Dieu, vous chiens païens ». C'est pas ça qui transpire du tout du psaume, d'accord? Bien, je fais exprès là, pour être sarcastique, mais quand vous êtes dans les évangiles, vous avez parfois ce sentiment-là de cette espèce de regard hautain des docteurs de la loi envers les païens, qui sont des impurs. Mais quand je m'en vais dans le psaume comme ça, ce que je lis ici, c'est que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, pas pour la gloire d'Israël, pas pour la gloire d'Israël, qu'il fasse luire sur nous sa face, pas pour qu'on puisse narguer les peuples et qu'on puisse les mépriser. « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations le salut. » Et puis là, il y a une espèce de vision prophétique, une aspiration prophétique, une aspiration à ce que ça va produire. « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Donc la prière du peuple d'Israël dans ce psaume-là, dans le psaume 67, c'était des passages que le peuple chantait souvent ensemble, rassemblés, et ils chantaient ça, d'accord? C'est triste de réaliser que lorsqu'on arrive à l'époque de la venue du Seigneur, on dirait que c'est comme perdu de vue, cette vision-là, d'accord? Mais c'est là dans le cœur de Dieu, c'est là dans la pensée de Dieu. John Piper écrit « La bénédiction accordée à Israël était le moyen d'atteindre les nations. Telle est l'espérance de l'Ancien Testament. Les bénédictions du salut sont pour les nations. » Fait que même dans notre lecture, admettons, eschatologique, de ce qui se passe avec Israël, d'accord? Lorsqu'on est en train de penser à l'eschatologie, puis là, il y a différentes positions sur la doctrine de la fin des temps, c'est ça l'eschatologie. Et puis il y a une espèce de vision un peu élitiste d'Israël. Israël, c'est le vrai peuple de Dieu. Israël, c'est le vrai peuple. Puis il y a certaines positions eschatologiques qui ont tendance à faire ça. Israël était là comme une prémisse du salut qui allait être là pour toutes les nations. Il n'y a pas de possibilité, quand tu lis Paul, de trouver cette vision-là où comme il y a un peuple qui est favori entre tous les peuples. C'est pour ça que Paul va dire plutôt que nous sommes l'Israël de Dieu, nous qui avons cru. C'est ce qui est développé dans Éphésiens, d'ailleurs, dans la série qu'on est en train de faire actuellement. Et donc, ce que Piper est en train de dire, c'est que la bénédiction qui était accordée à Israël était là pour qu'Israël devienne une bénédiction pour les nations. Puis si on s'en va à la Genèse, à l'origine, la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est exactement ça. c'est qu'en toi, toutes les nations, toutes les familles de la terre, si vous vous rappelez la semaine dernière, les familles, les clans, les peuplades de la terre vont être bénies en toi, dans ta descendance. Ça va se réaliser, évidemment, en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, un des plus beaux passages qui attire notre attention pour les mauvaises raisons souvent, c'est le livre de Jonas. C'est le missionnaire réfractaire, Jonas. Puis on est attiré par ce livre-là, parce que ça fait des beaux dessins pour les enfants, un gros poisson qui avale un monsieur. Mais le miracle ou l'élément le plus extraordinaire dans ce livre-là, c'est pas ce miracle-là. La Bible est remplie de miracles. Il y en a constamment. Les choses les plus extraordinaires dans le livre d'Exode, c'est pas les 10 plaies d'Égypte. C'est que Dieu ait racheté un peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est que Dieu ait délivré Israël de son esclavage. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans Jonas, c'est pas qu'un monsieur a été avalé par un poisson et qu'il soit encore vivant 3 jours plus tard. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans Jonas, c'est que le vrai missionnaire qu'on découvre dans le livre de Jonas, c'est pas Jonas, c'est Dieu. C'est Dieu qui a à cœur le salut de cette ville païenne de Ninive. Et c'est vraiment très révélateur, oui, sur le cœur humain, oui, sur la dureté du cœur humain, mais le message du livre de Jonas, c'est pas « Jonas est un méchant prophète ». C'est pas ça le message du livre. Vous comprenez? C'est découvrir qui est Dieu. Découvrir combien nous qui regardons les gens qui nous entourent à l'extérieur de l'Église avec des choix de vie, des choix moraux qui nous scandalisent. On regarde la culture environnante, on regarde le Québec, puis là, on regarde le Canada, puis là, on dit, OK, là, ils vont légaliser ça, on s'en va là-bas, là, c'est ça, c'est en train de se produire. Voici le nombre d'avortements qu'il y a, voici les mariages, c'est complètement en train d'être abandonné, il y a de plus en plus de foyers monoparentaux. Puis là, on regarde tout ça, puis il y a comme une grosse distance qui peut se créer dans notre cœur envers la culture et les gens autour de nous. Oui, ça, c'est comme Jonas regardait Ninive. Puis Jonas était rendu beaucoup plus loin. Il les haïssait profondément. Jonas ne pensait pas et ne parlait pas comme le psaume 67. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qu'on vient de lire dans le psaume 67, que les nations, que les peuples te louent, non, c'est Jonas, non, c'est pas que les peuples te louent. Maudis-les puis frappe-les ces chiens-là. C'est ça. C'était son désir pour Ninive, parce que c'était des païens qui faisaient des abominations, d'accord? Donc pour lui, ce sont des adversaires, c'est pas premièrement des gens perdus et aveugles. Quel est le regard que Dieu pose sur Ninive? Regardez le passage qu'on cite. Donc à la page 2, au haut de la page 2, Jonas 4, 10 et 11, « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, la plante avec laquelle il s'était abrité, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors, remettons les choses en perspective. Lorsque David se repent de son péché, d'avoir été vers la femme d'un autre, d'avoir causé la mort d'un homme pour pouvoir prendre sa femme, lorsqu'il se repent de son péché, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. C'est pas toute la vérité, là, cette affaire-là, parce que David n'a pas péché seulement contre Dieu, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre le mari de Bathsheba, il a péché contre le peuple d'Israël, il a péché contre sa propre famille, contre son épouse. David a péché de plein de manières. Mais son offense, c'est premièrement contre Dieu, parce que c'est Dieu qu'on offense par nos péchés, puis c'est Dieu qui nous a créés. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu est en train de dire à Jonas, « Attends un peu, là, je comprends pas. Là. C'est moi qui devrais être offensé, c'est pas toi. » Ah, toi, tu te préoccupes d'un ricin parce que ça te porte pas profit, parce qu'il est mort, puis là, tu as perdu l'ombre qu'il te faisait. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est moi qui devrais être offensé par les gens de Ninive, c'est pas toi. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'aurais pas pitié de ces gens qui sont aveugles puis qui n'ont pas de discernement. Alors voyez-vous, quand Dieu regarde le monde, il voit toutes les abominations que les hommes commettent et tous nos péchés. Il voit ça clairement. Il est offensé par ça. Il est profondément offensé. Il y a un jour de jugement qui vient où dans l'éternité, tous ceux qui ne se seront pas réfugiés en Jésus-Christ seront damnés pour l'éternité. Et donc, il y a vraiment en Dieu une sainte colère contre le péché. Dieu haït le mal et le péché. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi en Dieu une compassion incroyable pour les gens qui font ces abominations-là parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que ça vous rappelle une prière? Ça vous rappelle une prière? Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Voyez-vous? Donc ça, c'est le cœur de Dieu pour les nations dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on arrive avec Jésus, je n'ai pas un Dieu différent qui arrive avec Jésus. Je n'ai pas quelqu'un qui agit autrement. Voyez-vous la prière de Jésus sur la croix, puis les paroles de Dieu à Jonas, c'est la même chose qui est exprimée là. La même compassion pour la folie d'un cœur qui est aveuglé par le péché. Et donc, le vrai missionnaire dans le livre de Jonas, ce n'est pas Jonas. Lui, c'est le missionnaire réfractaire. C'est Dieu le vrai missionnaire. Des fois, lorsqu'on lit des livres sur la mission, ça va nous être présenté comme non pas la mission que Dieu nous a confiée, mais la mission de Dieu. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que Dieu ne nous envoie pas en mission pendant que Dieu attend le jour du jugement dernier. Aller en racheter quelques-uns en attendant parce que le jugement s'en vient. Non, Dieu est en mission. Dieu nous a choisis. Dieu a envoyé son Fils. Dieu, le Fils, est venu mourir sur la croix. Il nous montre quel est son cœur pour les nations. C'est Dieu d'abord et avant tout qui est en mission. C'est lui le missionnaire qui va vers les nations. Alors, lorsqu'un ami vient vous voir puis vous dit, OK, attends un peu, ou comme je vous l'ai partagé la semaine dernière, ce monsieur avec qui je jasais, qui me dit, non, Yannick, attends un petit peu, ça marche pas. Je sais pas si vous rappelez, il me dit, attends un peu, là, il y a combien de milliards de personnes qui se réclament de la foi chrétienne sur la terre? Maintenant, il y en a combien qui se réclament d'autres fois? Puis tu es en train de me dire que tous ceux qui se réclament d'autres fois que celles-là vont être damnés. Non, ça c'est ridicule comme pensée. Puis là, quelqu'un nous envoie ça au visage, puis là, on est comme un petit peu paralysé. Ouais, c'est sûr que les proportions sont pas mal quelque chose, tu sais. Puis là, on oublie qui est Dieu. On oublie combien Dieu aime les nations. Combien Dieu a à cœur les nations, ça a toujours été là dans son dessein. D'accord? Donc, quand je veux découvrir Dieu, le Dieu missionnaire, je veux avoir à l'esprit ce Dieu qui est saint et qui juge les nations, et je veux avoir à l'esprit ce Dieu qui est amour et qui a compassion de ces nations-là qui sont aveugles et qui nous envoie nous vers les nations maintenant. Et puis Jésus lui-même, a fait référence à Jonas en disant « C'est rien ce que vous avez vu avec Jonas. » Dans Matthieu 12, 39 à 41, il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Alors, si Jonas, par la grâce de Dieu, a pu conduire des milliers de Ninivites à la repentance, Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, conduit des millions d'hommes sur la terre depuis 2000 ans au salut éternel. Il y a beaucoup plus en Jésus qu'il y avait en Jonas, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, Paul. Alors, Paul a l'Ancien Testament, puis Paul développe sa compréhension de son appel à aller vers les nations à partir de l'Ancien Testament. Donc, on se tourne vers le Nouveau maintenant, mais on va aller voir comment est-ce que Paul s'inspire exactement de l'Ancien Testament. Il voyait son ministère comme s'inscrivant dans la parfaite continuité des promesses faites à Abraham. Alors, dans Galates 3, 8, c'est Paul qui écrit cette lettre. Paul dit ceci. « Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, les nations. » Païens, je vous l'ai dit, c'est ethnos qui est là. Donc, les ethnies de la terre, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et ce que Paul fait, c'est que dans ce passage-là, il commence par établir le fait qu'Abraham est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Avant d'être consacré, circoncis, donc la loi. Abraham avait déjà cru, c'est l'argument de Paul. Donc Abraham est sauvé par la foi. Et maintenant, Paul va plus loin puis il dit, OK, il y a plus que ça, il y a plus que le salut par la foi dans l'histoire d'Abraham. Il y a aussi une bonne nouvelle qui est annoncée à Abraham. Comme toi, tu as cru et tu es devenu père d'une nation, de la même manière, comme par la foi, tu es devenu père d'une nation, tu deviens aussi père de plein de nations qui vont croire par la foi aussi. Et donc, pour Paul, son mandat d'aller vers les nations, il le tire de où? Il le tire de la promesse faite à Abraham. Dieu donne une promesse à Abraham, puis Paul dit, juste là, on a le cœur de Dieu, on a la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il allait y avoir des millions de non-juifs qui allaient croire. C'était dans les plans de Dieu depuis le début. Intéressant, hein? Ainsi, Paul avait saisi que Dieu avait annoncé que sa bénédiction donnée à Abraham serait étendue aux nations par la foi. Tous ceux qui croiraient, feraient acte de foi, deviendraient ainsi des fils et des filles d'Abraham. Galates 3, 6, 7, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pour ça que, tantôt je faisais un commentaire sur l'eschatologie, peu importe votre position eschatologique, d'accord? Toute position, toute compréhension de la doctrine de la fin des temps qui va donner une vision un peu élitiste du peuple d'Israël, comme un peuple qui aurait été plus élu que les élus. Ça fonctionne pas dans le Nouveau Testament. C'est pas ça qu'il y avait dans le cœur de Dieu. C'est vrai que, dans ma compréhension à moi, Dieu garde Israël dans sa vision, d'accord? Et je crois qu'il y a un reste d'Israël qui va se repentir. Je crois ça personnellement. C'est comme ça que je comprends les passages du Nouveau Testament qui nous donnent des promesses. C'est comme ça que je comprends la doctrine de Paul sur l'eschatologie, sur la doctrine de la fin des temps. Mais je n'ai pas une vision élitiste d'Israël qui ferait qu'il y aurait le peuple d'Israël plus. Il y aurait le peuple de Dieu, je m'excuse, plus, qui est Israël, qui serait les plus élus que les élus. C'est pas ça l'argument de Paul du tout. L'argument de Paul dit, on est pareil. Puis en fait, c'est ça qu'on voit encore cette semaine dans Éphésiens 3. On a commencé à le voir la semaine dernière dans Éphésiens 2, dans la série sur Éphésiens. Si vous êtes chrétien, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritier. John Piper dit, « Et par conséquent, la promesse de Genèse 12:3 s'accomplit lorsque les missionnaires de l'Église chrétienne annoncent le message de l'Évangile à toutes les nations de la terre. » La promesse de Genèse 12:3 se réalise lorsqu'on a des missionnaires qui vont vers les nations, les ethnies qui ne sont pas atteintes. Ça se réalise lorsque toi puis moi, on annonce l'Évangile à un collègue de travail qui était un immigrant, fils d'immigrant depuis 8 générations au Québec peut-être. OK? Un Québécois de souche. D'accord? Donc la promesse de Genèse 12:3 est en train de se réaliser là. Lorsqu'on annonce l'Évangile à des gens qui sont récemment immigrants au Québec, la promesse de Genèse 12:3 est en train de se réaliser. Mais rappelez-vous, ce sont toutes les familles de la terre. Dieu avait promis à Abraham que toutes les familles, tous les clans de la terre seraient atteints. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux depuis une vingtaine d'années, même peut-être 30 ans maintenant, on comprend mieux cette promesse-là, ce mandat-là qui est donné et cette vision eschatologique, encore une fois, apocalyptique, où il va y avoir des gens de toutes les nations, de toutes les ethnos, les ethnies de la terre, qui vont venir louer Dieu dans toutes les langues de toutes ces ethnies-là. On comprend ça comme un mandat d'aller vers toutes les ethnies de la terre. Et donc, on veut rejoindre les peuples non atteints avec l'Évangile. D'accord? Et on va essayer de voir ce matin comment ça dictait même la stratégie missionnaire de Paul lorsqu'il voulait atteindre un territoire. D'accord? On va le voir un tout petit peu plus loin. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Paul comprenait par la promesse faite à Abraham de devenir le père d'un grand nombre de nations qu'il avait le mandat d'annoncer l'Évangile aux ethnies de la terre, aux nations. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations. Et ici, l'apôtre est en train de citer Ésaïe 49, 6. Il a dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça n'allait pas s'accomplir avant la venue de Christ. D'accord? Mais lorsque Christ vient et puis qu'il envoie ses disciples vers les nations, lorsque Paul dit, par exemple, aux Juifs, « Vous rejetez l'Évangile, maintenant je me tourne vers les païens avec l'Évangile. » Ce n'est pas un correctif de Dieu qui est en train de se passer. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas que Dieu a essayé une stratégie dans l'Ancien Testament en se disant, « Wow, ce peuple-là, ça va être comme l'organisation religieuse, politique, la plus extraordinaire, la société qui va vivre mes lois de manière excellente. » Puis ça va être tellement beau de voir comment Israël, on prend soin du pauvre, on prend soin de l'étranger, on juge le péché. Ces gens-là vont marcher tellement bien que, écoute, il y a des journalistes qui vont venir des extrémités de la terre, puis ils vont venir pour rapporter ce qui est en train de se passer là. Puis la terre va pouvoir adhérer à cette vision-là politique d'un système religieux et politique. C'est une théocratie. Puis là, partout sur la terre, on va vouloir implanter des théocraties où on va mettre en place les 10 commandements, puis les lois d'Israël, puis tout le monde. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, cette affaire-là. Fait que Dieu a comme révisé ses plans, il a envoyé Jésus, puis il a dit, ça ne marche pas, j'abandonne ça, c'est juste comme, ça là, ça ne marche pas, fait qu'on va envoyer des missionnaires. Non, les Écritures sont claires. Notre Dieu ne change pas ses voies, ne change pas ses desseins. Amen? Dieu ne change pas ses plans. Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu n'en a pas échappé une. C'était là dans son cœur. Et Dieu est en train de faire une démonstration à travers Israël. Rappelez-vous l'argument de Paul dans Romains? Dieu est en train de faire une démonstration. Il est en train de démontrer à travers Israël que l'homme ne peut pas être sauvé par la loi. L'homme peut être sauvé uniquement par la grâce et par la foi dans la grâce de Dieu, pas par la loi. Israël est une démonstration de la réalité du cœur humain. C'est ça qui est en train de se passer. Et à travers cette démonstration-là, lorsque moi, je vais annoncer l'Évangile à quelqu'un, puis tu annonces l'Évangile à un collègue de travail, puis dans le fond, le discours qui est en train de te dire, quand tu écoutes comme il faut ce qu'il croit, c'est au salut par les œuvres. Il pense qu'il est une bonne personne, puis qu'il n'a pas trop besoin de se préoccuper du sacrifice de Jésus, parce que lorsqu'il va arriver de l'autre bord, de toute façon, s'il y a un Dieu qui est là, il m'en doit pas mal, parce que j'ai souffert pas mal ici, puis je suis quand même une bonne personne. Moi, je lis les journaux tous les jours. Je suis pas dans les journaux. Tu sais, je suis pas dans les journaux, fait que je suis quand même une bonne personne. Là, tu t'en vas à travers tout ça, puis tu dis, OK, ouais, il court vraiment au salut par les œuvres. Puis, je peux-tu te parler du salut par les œuvres? Je peux-tu te parler de bonnes personnes? Tu sais, qu'il y avait un bon système. Là, je m'en vais dans l'Ancien Testament. Puis là, je fais la démonstration à travers Israël que ça marche pas. Tu sais, Israël n'allait pas se présenter devant Dieu avec ses performances. C'est pas bon. C'est pour ça que Jésus est venu, tu sais. Fait que, voyez, Dieu a pas ajusté ses plans. C'était dans les desseins de Dieu et Israël devait être une lumière pour les nations. Maintenant, la vision est probablement prophétique. C'est l'Israël de Dieu qui va être une lumière pour les nations. C'est pour ça que Paul va dire « Et fils et fille de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, qui croit dans celui qui a amené l'accomplissement de la promesse. » Alors, un Juif qui ne croit pas en Jésus-Christ, au jour du jugement dernier, sa situation ne sera pas meilleure que celle d'un païen qui ne croit pas en Jésus-Christ. Il ne pourra pas dire, attends un peu, là. Je vais te sortir ma généalogie. Non, j'ai certains droits quand même. OK, peut-être pas le top, là. J'ai pas cru dans le Messie, mais non. Fais une analyse de sang, bonhomme. Je te dis, j'ai droit à quelque chose ici. Ça ne marchera pas comme ça. En Israël, étaient fils et filles d'Abraham ceux qui avaient la foi d'Abraham. Ceux qui ne l'avaient pas, même s'ils étaient descendants physiquement d'Abraham, même si les hommes avaient été circoncis, ils n'étaient pas ses fils et filles d'Abraham. Parmi les nations, c'est la même chose. D'accord? Et donc, comment est-ce que Dieu va bénir les nations de la terre à travers Israël? Il va bénir les nations de la terre à travers l'Israël de Dieu. À travers l'Israël de Dieu, ceux qui ont la foi d'Abraham. Et ça, bien, si tu es chrétien, tu as la foi d'Abraham. Tu fais partie de l'Israël de Dieu. Et donc, Dieu est en train de bénir actuellement les nations de la terre à travers l'Église. C'est ça qu'il est en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de bénir les nations de la terre à travers l'Église, l'Israël de Dieu. Parce qu'on est fils et filles d'Abraham. Et c'était ça que Paul comprenait lorsqu'il lisait ces passages-là et qu'il essayait de comprendre le mandat qui était donné. Plus loin, à Antioche de Pisidie, Paul se tourne vers des Juifs. se détournent des Juifs pour aller vers les païens. Il cite encore une fois Ésaïe 49,6. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Il est en train de citer Ésaïe, pas le Seigneur Jésus de Nazareth. Le Logos dans l'Ancien Testament, le Fils, mais à travers la parole donnée à Ésaïe, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Paul comprenait, en lisant ça, que Dieu n'allait pas réaliser cette prophétie-là à travers la nation géopolitique d'Israël, mais à travers l'Israël de Dieu, ceux qui allaient croire en Jésus-Christ et que Dieu allait envoyer vers les nations. Donc, lorsque Paul décide à ce moment-là de dire aux Juifs, « Je suis arrivé dans cette ville, il y avait des Juifs ici, je me suis rendu au rassemblement des Juifs pour commencer, je vous ai annoncé l'Évangile, ceux d'entre vous, là, si je vais dans toute la théologie de Paul, ceux d'entre vous qui étaient appelés de Dieu se sont convertis. » Excusez. Maintenant, Dieu a d'autres élus dans cette ville. C'est peut-être pas des Juifs, physiquement. Je me tourne vers eux maintenant, parce que c'est ça la promesse qui a été donnée. C'est que Dieu allait nous envoyer pour être la lumière des nations. Alors, lorsque Jésus a dit dans Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde », c'était pas du monde d'Israël, là, dans un petit territoire. Là. Quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », Jésus a en tête cette vision-là. Je vais vous envoyer vers toutes les nations, vous êtes la lumière du monde, au complet. C'est bon? Piper dit, nous voyons donc que la vision que Paul avait de son ministère personnel s'inspirait de la méditation, non seulement des promesses faites à Abraham, mais aussi de l'espérance. Vétérotestamentaire, ça veut dire dans l'Ancien Testament, l'espérance plus large selon laquelle le salut serait annoncé à toutes les nations. Et Paul a une passion pour ça. Paul exprime très clairement sa compréhension du but de la venue de Jésus-Christ et de sa promesse, de sa propre mission dans Romains 15. Là, on va regarder différents passages dans Romains 15. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Donc, Jésus est venu pour sauver les circoncis, pour montrer que Dieu est fidèle à sa parole. D'accord? Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Israël, dans l'Ancien Testament, avait déjà connu la miséricorde de Dieu. En Genèse, Israël avait connu la miséricorde de Dieu. D'accord? Après ça, des centaines de fois, lorsqu'Israël péchait, puis Dieu leur pardonnait, puis ils se repentaient. Donc, Israël connaissait la miséricorde de Dieu. Maintenant, Paul dit, Christ est venu pour montrer que Dieu est fidèle à ses promesses. Excusez-moi. Mais il dit, les nations ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu. Pas comme Israël. Et donc, Christ est venu maintenant pour que la miséricorde de Dieu soit connue parmi les nations. Selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Le premier objectif de la venue de Jésus-Christ était de prouver que Dieu respecte ses promesses. Son second objectif était le salut des nations. C'est comme si ces deux éléments-là se superposent parce que Dieu prouve qu'il est fidèle à ses promesses en envoyant son Messie, mais dans les promesses, il y avait la lumière pour les nations, le salut pour les nations. Donc, en amenant l'Évangile aux nations, Dieu prouve encore qu'il accomplit ses promesses et qu'il est fidèle à sa parole. Paul était imprégné de l'espérance des nations. Toujours dans Romains 15, Paul cite tour à tour quatre passages de l'Ancien Testament qui annoncent le salut des nations. Fait qu'on est dans une toute petite section de Romains 15, puis il fait plein de citations, juste pour dire qu'il lisait l'Ancien Testament à partir du jour de sa conversion, puis on sait que Paul a eu comme un 2 ans environ à l'écart après sa conversion, ou probablement, il n'était pas très public à ce moment-là, il n'était pas sur les médias sociaux, puis probablement qu'il est en train d'étudier les Écritures. Puis vous comprenez là, que du jour au lendemain, ce gars-là se convertit, puis il dit, « OK, attendez un peu, là. faut que j'aille relire mes textes, là. OK, Seigneur, je comprends, je suis chrétien, je crois en toi, là. Est-ce que je peux prendre le temps un petit peu d'aller lire Genèse, hein, Malachie, puis essayer de mettre tout ça ensemble, là, parce que... Puis là, lorsqu'il s'est mis à lire tout ça, puis à méditer ces passages-là, wow! OK, il y a plein de textes qui s'éclairaient d'une manière complètement différente. Et donc, on a une idée de sa compréhension de l'Ancien Testament dans ce bref passage-là, où il cite quatre passages de l'Ancien Testament. Romains 15, 9, « Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai la gloire de ton nom. » Il est en train de citer Psaume 18, 49. Au Psaume 15, 10, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Il est en train de citer Deutéronome 32, 43. Au verset 11, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Il est en train de citer à ce moment-là le psaume 117, 1. « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, sur les ethnies. Les nations espéreront en lui. » Il est en train de citer Ésaïe 11, 10. Paul méditait l'Ancien Testament, étudiait l'Ancien Testament, puis il voyait cette thématique-là rejaillir comme il l'avait jamais compris alors qu'il était un docteur de l'Ancien Testament avant. Mais là, assisté par l'Esprit Saint, en comprenant qui est Jésus puis qu'est-ce qu'il est venu accomplir, wow, il y a une clé. Il y a une clé pour comprendre l'Ancien Testament qu'il ne possédait pas avant, qui est venu comme éclairer un paquet de passages. Mais comment ça se fait qu'Israël, c'est comme un échec, cette affaire-là? Ben, il nous l'explique dans Romains, c'est pas un échec. C'était pédagogique. Dieu est en train de faire une démonstration que la loi, c'est pas suffisant pour sauver l'homme. Donc, il comprend un paquet d'affaires qu'il ne voyait pas avant. Puis c'est très intéressant, toujours dans Romains 15, de voir comment il analyse son œuvre missionnaire dans une région donnée. D'accord? Romains 15, 19, « Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. D'autres vont traduire ce verset-là par « J'ai complètement répandu l'Évangile de Christ. » Et il en vient à la conviction qu'il n'y a plus rien qui le retient dans ces régions-là. Donc, au verset 23, il dit, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. » Là, il se prépare à aller vers d'autres régions. Il s'en va ailleurs. Il écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Maintenant, je reviens sur une question qu'on a posée au début de ce chapitre-là. Est-ce que le désir de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes à travers la terre? Ou est-ce que le désir de Dieu, c'est de sauver des gens de toutes les nations du monde? C'est à ça qu'on répond depuis le début de ce chapitre-là. D'accord? Maintenant, Paul est dans une région donnée. Il a établi des églises. Ces églises-là ne sont pas complètement établies. Il va renvoyer Timothée dans ces églises où il est passé pour terminer de mettre en place des anciens. Donc, c'est des œuvres missionnaires qui sont encore fragiles, d'accord? Des églises qui pourraient fermer tant qu'elles sont pas bien établies. Alors, il renvoie Timothée, puis il dit, va terminer le travail, il faut les établir comme il faut. Puis lui, il dit, moi, mon travail est terminé ici, je m'en vais ailleurs. Mais tu es en train d'établir un témoignage. Tu es en train de rejoindre ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens à sauver? Est-ce que c'est pas plus difficile d'arriver dans une autre terre où l'Évangile n'a jamais été présenté, puis il faut que tu arrives à Athènes, puis il faut que tu expliques aux Athéniens? Vous savez, là, toutes ces statues-là là, que vous adorez, là, est-ce que c'est plus difficile? Là, je m'adresse aux boomers, OK? Est-ce que c'est plus difficile d'annoncer l'Évangile aux jeunes Québécois d'aujourd'hui qui... Pour eux, l'idée de Dieu, c'est vraiment pas une certitude. La Bible, c'est certainement pas un livre plus spécial que les livres des autres religions. Rappelez-vous, là, dans les années 70-80, là, quand vous annonciez l'Évangile à des catholiques, qui avaient tout le fondement du catholicisme. Puis là, c'est vrai, il y avait tout un défi. Chaque conversion, c'est un miracle. Puis il y avait tout un défi parce qu'ils étaient attachés à leur Église. Mais on construisait sur quelque chose. Moi, je le sais, parce que je suis impliqué à la Banque alimentaire à Bouffe pour tous. Je l'ai dit la semaine dernière, quand je parle avec des immigrants qui arrivent de pays où il y a des convictions très, très fortes que Dieu existe, que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu mérite d'être craint. Ces gens-là arrivent, ils ont perdu deux enfants en couche, ils ne renient pas Dieu pour ça. Mais quand je parle avec un Québécois, puis que ça s'est produit, c'est probablement la preuve incontestable que Dieu n'existe pas. Dans quel contexte c'est le plus facile d'annoncer l'Évangile? Mais Paul a annoncé l'Évangile dans ces régions-là. Il a établi des petits flambeaux qui commencent à briller dans toutes ces régions-là, puis il dit, j'ai terminé mon travail, il faut que je m'en aille ailleurs. Alors, qu'est-ce que Paul a comme vision de la mission que Dieu lui a confiée? Le salut du plus grand nombre ou le salut parmi toutes les nations de la terre? Intéressant, hein? Intéressant, hein? Paul avait compris le cœur de Dieu et il voulait que l'Évangile soit répandu à toutes les nations de la terre. John Piper dit, « Cela montre que l'idée que se faisait Paul de la tâche missionnaire n'était pas simplement de gagner le plus grand nombre possible, mais d'atteindre toujours plus de peuples ou de nations, d'ethnies. » Il était poussé par une vision prophétique de la mission. Ésaïe 52, 21, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Quand quelqu'un va vous dire, oh, « Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec les gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Il faut qu'il y ait un autre moyen d'être sauvé. » Ne va pas te réfugier dans cette équation-là difficile. Dis-lui, écoute, c'est pour ça que depuis 2000 ans, des chrétiens se font tuer en allant dans des pays où ils ne sont pas bienvenus. C'est parce que Dieu aime les nations. C'est pour ça que les chrétiens donnent des milliards de dollars par année à la mission pour envoyer des missionnaires. C'est pour ça que des gens quittent leur propre peuple. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait quitter le Québec alors qu'on est moins de 1% au Québec? D'accord? Moins de 1% qui pourrait vous expliquer l'Évangile au Québec. Ça me dit, non, il y a plus de chrétiens que ça au Québec. Mais demande-leur l'Évangile, puis on s'en reparlera. Moins de 1%. Pourquoi est-ce que je voudrais quitter le Québec puis aller ailleurs? Parce que Dieu veut que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, que ceux qui n'ont pas vu Jésus-Christ entendent l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on envoie des missionnaires auprès de peuples qui n'ont même pas de langue écrite. Puis ces missionnaires-là sont les premiers qui arrivent là auprès de cette peuplade de 400 000 personnes. Vous comprenez, ce missionnaire-là va consacrer sa vie à écrire une langue qui n'a pas d'écriture pour pouvoir traduire des portions de la Bible. C'est une vie consacrée à peut-être pouvoir communiquer clairement, par exemple, le concept de la rédemption. L'idée que Christ est mort pour tes péchés. Il y a des peuples pour qui c'est inconcevable, cette idée-là. Je veux dire, c'est très difficile à concevoir dans notre société qui a été christianisée. Mais il y a des missionnaires qui vont consacrer leur vie juste à traduire des petites portions du Nouveau Testament, juste pour pouvoir communiquer ces concepts-là, puis pouf, ils vont mourir. Est-ce que c'était une vie gaspillée? Vous vous rappelez de l'illustration des deux paquebots qui font naufrage, puis qui sont en train de couler? Et puis là, il y a des gens qui sont en train de se noyer. Et puis là, il y a une équipe de sauvetage qui s'en vient, puis évidemment, tu arrives plus près d'un ou deux des deux paquebots, puis là, ils arrivent, puis là, il y a plein de gens ici à sauver, mais tranquillement, ils entendent les voix des autres qui sont là-bas, 500 mètres, 1 kilomètre plus loin, puis eux autres sont en train de crier, puis eux autres, ils veulent justice, ils veulent avoir une chance d'être sauvés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils veulent sauver le plus grand nombre, ils laissent tout mourir. En tout cas, ils sauvent tous ceux-là, puis après ça, ils s'en vont là-bas. Parce que le temps d'aller là-bas, il y en a d'autres qui vont mourir. Pourquoi est-ce qu'on envoie des missionnaires consacrer leur vie à essayer de traduire des portions des Écritures, puis ça va nous prendre 2-3 générations de missionnaires pour traduire la Bible, puis avoir le film de Jésus dans leur langue, parce que Dieu aime les nations. Fait que la prochaine fois que quelqu'un va te dire « Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Évangile? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Des pays qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, Dieu les aime pas, ces gens-là? » Dieu fait couler le sang de ses enfants. Comme il fait couler le sang de son fils. Il fait couler le sang de ses enfants. Il consacre des vies entières à quitter tout le confort de leur vie pour aller atteindre les nations avec l'Évangile. Dieu aime vraiment les nations. Une des plus belles preuves concrètes pour nous, c'est qu'il y a combien de Juifs ici, par descendance? Qui peut sortir son analyse d'ADN pour prouver qu'il est descendant d'Abraham ici? Et pourtant, il y a combien de chrétiens dans cette pièce ici ce matin? Ben, il y en a au moins un, c'est moi. On est deux, merci Merson. Trois, quatre. C'est bon, il y en a quelques-uns. Est-ce que Dieu aime les nations? Est-ce que Dieu aime les païens? Dieu aime les païens. Les nations de la terre. On va prier ensemble et on continue la semaine prochaine. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce livre vraiment, vraiment intéressant qui nous aide à comprendre et articuler beaucoup mieux ta passion pour les nations. Je bénis Dieu, Seigneur, pour le ministère de John Piper. Merci, Seigneur, d'aimer les ethnies, les peuples, les clans de la terre dans toutes les langues et d'avoir cette vision extraordinaire, tellement charitable. C'est pas que quelqu'un sur la terre mérite plus ton pardon. Chacun d'entre nous, ce qu'on mérite, c'est ta colère, ton jugement, Seigneur. Mais tu regardes les nations et tu dis, comment est-ce que je ne pourrais pas avoir compassion de ces hommes et de ces femmes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Seigneur, ce matin, on veut te prier pour les missionnaires qui ont quitté leur maison, leur foyer, leur peuple, leur culture, Seigneur. Pas par un désir exotique d'aller faire des voyages exploratoires en Asie, mais pour aller aimer un peuple qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas. Aller traduire la Bible dans leur langue, souvent même composer une langue écrite pour eux, afin qu'ils puissent entendre l'Évangile. Seigneur, on te prie pour ces missionnaires partout sur la terre. Certains d'entre eux sont dans des pays où leur vie est en danger par leur simple présence là-bas. Ils nous font des rapports missionnaires en nous demandant de ne pas les publier sur Internet pour protéger leur vie, pour protéger la vie des gens qui se convertissent sous leur ministère. Merci, Seigneur, pour l'opportunité de donner pour la mission. Merci, Seigneur, de ce que cette Église a eu à cœur de donner 10 % de ses budgets missionnaires réguliers, que des gens ont à cœur de donner en plus de cela, Seigneur, généreusement pour la mission. Merci, Seigneur, d'avoir placé ça sur nos cœurs. Merci pour les beaux qui sont venus ici, monsieur et madame Beau. Merci pour les missionnaires qui sont venus au Québec, Seigneur. Seigneur, merci pour les missionnaires que tu vas susciter dans cette assemblée pour aller vers des peuples non atteints avec l'Évangile, Seigneur, afin que des gens de toutes les nations viennent te célébrer dans l'éternité, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, vous pouvez être ajouté, juste à le demander. Vous pouvez prendre les notes du cours. Merci.